Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire de ce jeune homme qui se fait appeler Romuald est signée Gabriel de Corinthe et racontée sur le site d'Amnesty International. Le jeune homme est élevé dans une famille athée et ouverte d'esprit. Aussi, lorsqu'il fait son coming out homosexuel à l'âge de 16 ans, il n'est pas mal accueilli de son entourage. Il multiplie les rencontres amoureuses, puis s'installe en couple avec Sébastien, son grand amour. Pourtant, lorsqu'en 2008, la foi l'appelle et qu'il répond à cet appel du Christ, sa lecture de la Bible le conduit à la conclusion que son homosexualité est incompatible avec la religion. Il décide alors, non sans peine, de renoncer à Sébastien. « En quittant Sébastien pour me rapprocher du Christ, j'ai renoncé à un amour pour un amour plus grand », dit-il. C'est un peu plus tard qu'il découvre l'association Courage France, qui anime des rencontres pour des centaines de chrétiens homosexuels ou parents d'homosexuels. La branche française n'utilise jamais le terme de « soigner l'homosexualité », contrairement à la maison mère américaine, mais l'idée, c'est, je cite, « d'accompagner les personnes ressentant une attirance homosexuelle, sans jugement ni condamnation, tout en demeurant fidèles à l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité ». Fin de citation. Et en gros, l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité, c'est « pas d'homo à l'intérieur de l'Église ». Il faut donc, je cite encore, « apprendre la chasteté et à réprimer sa sexualité ». Ceinture. L'article d'Amnesty précise au passage que l'Église catholique est loin d'être la seule religion à proposer des solutions pour se détourner de l'homosexualité. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, comme Romuald, qui dit finalement vivre selon ses désirs, même si le chemin est dur, ce sont deux histoires qui racontent un rapport à l'Église, à la conversion au sens mystique et sexuel, deux êtres qui tentent à un moment de forcer leur nature, de se changer, de se tourner vers Dieu ou de se détourner d'eux-mêmes, deux histoires qui commencent mal et qui finissent bien, par Clément Baudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Cyril, j'ai 24 ans. J'ai grandi dans un milieu catholique conservateur et j'ai grandi dans un établissement scolaire privé catholique sous contrat d'association avec l'État à Neuilly-sur-Seine. Où là, il y avait vraiment une dimension spirituelle qui était forte. Il y avait des participations à la messe qui étaient obligatoires, des cours d'éducation religieuse. Je me souviens aussi que, par exemple, on avait une mère de famille qui était engagée à Alliance Vita, qui est donc un mouvement anti-avortement, qui était venue faire une intervention anti-avortement à l'école. Elle avait été invitée par les responsables de l'établissement. J'allais à la messe pratiquement tous les dimanches. C'était vraiment un aspect de ma vie que je percevais comme un engagement et comme une source d'enrichissement et d'apaisement intérieur. Globalement, l'ensemble de ma famille, c'est tous des catholiques pratiquants et convaincus. Moi, j'étais plutôt dans la continuité de ce qu'aussi bien le lycée que ma famille attendait de moi, en fait. Et je pense que j'ai trouvé une satisfaction même dans le fait de défendre quelque chose d'aussi presque un peu à contre-courant ou un peu atypique. Ce qui pour moi a été l'élément déclencheur, c'est j'ai rencontré une fille quand j'étais en terminale. J'allais faire du babysitting pour sa petite sœur à ce moment-là. On a beaucoup échangé en fait, surtout par texto, par mail, par téléphone. Et en l'espace de 3 mois, on était devenus les meilleures amies du monde. Et donc c'est développé avec cette fille une relation très forte, très intense, qui à ce moment-là ne pouvait être pas autre chose que de l'amitié. À ce moment-là, l'homosexualité, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'impossible, aussi bien de mon côté que du sien, je pense. Du coup, je me souviens que j'allais jusqu'à tout ce qui pouvait être tolérable, on va dire, dans un choix amical. Donc genre, un besoin par exemple de la prendre dans mes bras, d'avoir une forme de proximité physique, mais qui franchissait pas le cap de gestes explicitement érotisés, on va dire. Il y avait du désir, il y avait une forme d'excitation même. J'avais des fantasmes que j'arrivais pas bien à comprendre, à expliciter, enfin... Je veux dire qu'elle m'a comparé à une chaudière et je pense que l'image est assez juste, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui avait besoin de s'exprimer et qui pouvait pas s'exprimer, qui était complètement refoulé. Ce même été, j'ai accompagné des amis à un forum d'été de la communauté de l'Emmanuel. C'est des jeunes entre 18 et 25 ans, vu que c'est le public auquel s'adresse le forum. Et il y avait une journée qui était organisée sur la vie affective. Et dans cette journée, il y avait un atelier sur l'homosexualité, qui n'était pas obligatoire, mais où je suis allée. Et à ce moment-là, la personne qui animait cet atelier, en gros, c'était un discours comme quoi l'homosexualité relevait d'une forme d'immaturité affective. Donc la relation homosexuelle pouvait arriver à l'adolescence, mais dans ce cas, être éventuellement dépassée, et devait absolument être dépassée après, et une étape à dépasser vers l'hétérosexualité. L'homosexualité était quelque chose qu'il fallait arriver à guérir. Du coup, il fallait surtout pas succomber en fait à la tentation de mettre en pratique ces désirs-là. Il fallait vraiment essayer de les fuir et de se remettre dans le droit chemin en fait. Et le discours que j'entendais, c'était plutôt assez bien construit. Et puis la personne avait aussi des témoignages de, en fait, qu'elle utilisait pour donner plus de crédit à son discours. Et en fait, ça collait assez bien avec ce que moi j'avais théorisé. C'est-à-dire que moi j'avais cette même idée que, ben oui, j'étais dans une forme de débordement affectif. Moi j'étais vraiment persuadée à ce moment-là, et je m'étais vraiment persuadée que j'étais complètement défaillant sur le plan psychologique. Et que du coup, il fallait que j'apprenne à réguler mes sentiments, mes émotions. Et je suis même allée voir la personne à la fin de l'atelier pour lui demander de pouvoir discuter en privé. Elle m'avait recommandé de m'inscrire à un groupe de prière, le sport. Elle m'avait demandé si je faisais de la musique aussi. J'avais pas trop compris à ce moment-là, mais voilà, elle était dans des conseils pour essayer de se battre en fait contre la tentation d'une relation qui aurait été homosexuelle à ce moment-là. Et du coup, j'ai complètement adhéré. Je continuais à les pratiquer de manière très consciencieuse pour essayer d'évacuer. Et puis, par la prière, par le fait d'être entourée d'autres gens, ça entoure d'une espèce de bulle joyeuse à un moment donné, quoi. À la fin de chaque messe du dimanche, même par la suite, j'y trouvais une forme d'apaisement. Mais je me souviens que je suis allée jusqu'à avoir un psychiatre. Je me souviens même que du coup, à la psychiatre, j'avais expliqué que j'avais des problèmes hormonaux. Et c'est comme ça que j'expliquais en fait le fait que j'avais des espaces de désir un peu débordants et que j'arrivais pas vraiment à contrôler. Je cherchais désespérément une façon de résoudre le problème tout en étant convaincue qu'en fait, il y avait quelque chose de l'ordre du pathologique et qu'il fallait guérir. Après le fameux été où j'ai participé à ce forum d'été, c'était l'année de la manif pour tous. Et pour moi, ça a été aussi ma première année d'entrée dans le supérieur. J'ai changé d'environnement. J'étais en prépa dans un lycée public, pour le coup très gay-friendly. Et puis, enfin, dans le milieu social dont je venais, catholique, bourgeois, parisien, au début, tout le monde était manif pour tous de manière évidente. Je suis allée dans les cortèges de manif, ouais. C'était les dimanches, et puis les manifestations passaient vraiment juste à côté. J'étais descendue en fait, et j'ai même fini par suivre le flot, et j'ai vraiment ressenti toute la masse physique des gens qu'il y avait. Je voulais que cette masse de gens soit presque toujours de plus en plus importante pour écraser en fait, vraiment physiquement encore plus ce que je ressentais et ce que je pouvais pas accepter, quoi. Du coup, j'ai été pas mal tiraillée pendant l'année et je pense qu'en fait, très petit à petit, il y a des choses qui ont évolué quand même dans mes questionnements. Et puis surtout, il y a eu des personnes que j'ai rencontrées en fait, avec qui j'ai pu discuter dans la prépa où j'étais, qui petit à petit m'ont fait changer d'avis. Je pense que j'avais besoin d'entendre quelqu'un me dire « Non, mais définitivement, ce que tu as ressenti, ce que tu ressens encore maintenant, c'est de l'amour. Arrête de te poser 36 000 questions. Admets le fait que tu as des sentiments amoureux envers les femmes. » Quelqu'un a pu me le dire et j'ai commencé à avoir un regard de plus en plus critique par rapport à ce que j'avais entendu. J'ai eu un premier temps où j'ai commencé à admettre les désirs et où du coup je me suis dit bon, je dois être lesbienne. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet et je me souviens être tombée dans un livre sur la notion d'homophobie intériorisée. Je me suis dit ah oui, là il y a peut-être quelque chose à travailler. Et il y a eu une prise de conscience de ce que je me faisais vivre et de ce qu'on m'avait fait vivre et savoir que j'étais vraiment devenue un bourreau de moi-même. Je me suis dit, je vais essayer quand même de sortir de ça. Je me suis questionnée sur quelles images ça m'évoquait, l'homosexualité, qu'est-ce qui me venait quand j'en entendais parler. J'essayais de chercher des témoignages de gens qui vivaient en couple heureux. C'était vraiment du déconditionnement. Même à un moment, j'éprouvais un peu un sentiment de honte d'avoir adhéré à ces discours-là. Non seulement je pratiquais plus, mais je me disais plus catholique. J'ai fait un premier coming out à mes amis et à ma mère à ce moment-là. Et ça s'est très bien passé. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis posé la question d'aller dans une association. Donc c'est comme ça que je suis arrivée au bout d'un certain temps à l'association David et Jonathan, qui est une association LGBT chrétienne, plutôt ancrée dans un christianisme progressiste ou de gauche. Et moi, dans le milieu dans lequel j'avais grandi, c'est quelque chose qui n'existait pas. La démarche de David et Jonathan, c'est on peut être chrétien et LGBT et pro-LGBT et avoir une vie sexuelle et affective épanouie et une identité de genre épanouie. Et c'est possible de concilier les deux. J'ai fait des week-ends David et Jonathan et les premières fois où j'y allais, j'avais un sentiment mais de bien-être et d'apaisement qui était incroyable. Ça m'a fait un bien mais extraordinaire. J'ai pu découvrir ce que c'était que la transidentité. Je me suis pas reconnue tout de suite dans cette situation-là parce que déjà lesbienne c'était pas facile. Et donc à ce moment-là j'avais une existence sociale de femme. Enfin j'étais considérée comme une femme. Et tout ça a pris plusieurs années, mais j'ai fini par rentrer dans un processus de transition. Familiaux qui sont encore très récents. Et ça m'a fait perdre beaucoup de choses dans la vie. Enfin, moi, ça a transformé mon premier grand amour, enfin, la première personne que j'ai aimée profondément, en tout cas, en relation catastrophique. Ça m'a empêché de faire les études que je voulais faire. Mais l'air de rien, je suis quand même assez fière de la manière dont je m'en suis sortie, parce que c'était pas gagné. Aujourd'hui, j'ai un rapport à la fois qui est prudent et distancié. C'est pour ça aussi que j'ai un engagement militant, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes dans les communautés chrétiennes, dans les communautés religieuses, qui vivent des situations similaires à la mienne, quoi.
Je m'appelle David, je suis à l'aube de mes 31 ans. Je viens d'une région qui est assez sinistrée socialement, un tout petit village au sud de la Marne, en pleine campagne, un petit village de 200-300 habitants. Je viens d'un milieu, on va dire, plutôt modeste, avec une mère vendeuse, un père électricien. Ma famille n'est pas pratiquante, elle est de culture catholique, mais non pratiquante des deux côtés. J'ai même un grand-père qui est des... sympathisant communiste et bouffeur de curé. J'ai été très jeune et très vite un enfant très différent, j'avais pas les mêmes goûts. Je dirais que j'étais pas typiquement masculin, en tout cas je jouais pas aux voitures comme on l'attendait de moi, ou aux armes, ou non, j'étais essentiellement fasciné par la nature et ce qu'elle nous offrait à voir, les animaux. J'ai beaucoup capturé des animaux et joué avec eux en les observant. Et j'ai passé une très grande partie de mon enfance, de mon adolescence, quasiment uniquement dans ce village. On partait assez peu en vacances et je m'y suis, jusqu'à mes 12-13 ans, je m'y suis assez peu ennuyé. L'église, elle est située pile poil au centre du village. Elle est entourée par un cimetière qui a quelque chose de tout à fait morne et triste. C'est lugubre. J'avais découvert l'église de mon village. Mais quand mes parents étaient invités chez des gens ou que j'avais une occasion d'aller dans un autre village, l'une des choses que j'aimais faire, c'est pénétrer dans les églises et les découvrir à chaque fois. Donc j'ouvrais les tiroirs, j'allais dans la sacristie où je... Voilà, la religion a exercé très vite un très fort attrait. J'ai été très très curieux et j'ai voulu comprendre en fait ce que pouvait apporter la religion dans nos vies et ce que ça signifiait. Mon tout premier souvenir lié à la religion, C'est une conversation avec un curé qui s'appelait Paul, prêtre Paul. Mes parents l'avaient convié à dîner un soir, puisque ma sœur allait préparer sa toute première communion. Et le prêtre parlait de manière très imagée, symbolique, et notamment il touchait au grand mythe fondateur de l'humanité, Adam et Ève. J'avais à l'époque 6 ans, et presque de manière intuitive, moi je comprenais pas comment un seul homme et une femme, à eux seuls, pouvaient engendrer toute l'humanité. Une humanité que je savais déjà très colorée et nombreuse. J'ai pas dû lever la main pour prendre la parole. Je pense que je lui ai coupé la parole. Et j'ai dû réagir en disant, mais enfin, comment cela est-il possible? Voilà, déjà, quand j'avais 6 ans, j'avais en tête que l'inceste procurait des êtres dégénérés. Donc pour moi, tout ceci n'avait aucun sens. Ce à quoi le père Paul a très bien réagi. Il a réagi avec beaucoup d'humilité, il a esquissé un grand sourire, il a repris les mêmes paroles qu'il avait juste avant et a continué à deviser sur du symbolique. Et voilà, il nous avait eu sans répondre à ma question tout à fait prosaïque. Après cet épisode, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'approfondir ma connaissance de la religion. Mes parents nous ont laissé complètement le choix, à ma sœur et moi, de suivre ou non le catéchisme. Je le voyais comme une espèce d'école parallèle qui allait m'apprendre d'autres choses. Pour moi, c'était comme une évidence, j'ai eu envie de suivre les enseignements du catéchisme. Et j'ai eu des heures de catéchisme à l'intérieur d'églises mal chauffées. On brûlait les mouches qui étaient séchées et mortes dans la sacristie avec de la cire de bougie. Mais on avait chacun un livre pour apprendre des choses sur la religion. Moi, je me souviens du titre de ce livre, ça s'appelait « Pierre vivante ». Et il y avait même une petite musique. « Pierre vivante de l'esprit ». Vois en ton église Jésus-Christ. C'est des mots et peut-être une petite mélodie qui va me poursuivre comme ça jusqu'à mon Alzheimer d'ici 40 ans. Alors au début, il y avait quelque chose d'assez automatique pour moi. J'étais un enfant, donc quelque part, toutes les semaines, à heure régulière, on allait au caté. Et c'est aussi à partir de cette époque que j'ai été fasciné par ce que représentait l'Église, mais en tant qu'institution, par une certaine forme de morgue qu'on observe dans le rituel catholique. Voilà, il y a quelque chose de lourd et de pesant dans la messe. Et les cardinaux, etc., ça a nourri mon imaginaire. Une assemblée d'hommes qui, les mains jointes, regardent vers le ciel, ils sont tous très bien habillés, dans des étoffes richement satinées, légèrement brillantes, le pourpre des chapeaux. Moi, j'adore ça, je peux pas l'expliquer. J'ai jamais pensé à devenir prêtre, j'ai toujours pensé à devenir cardinal, d'être au sein des saints, d'être dans le premier cénacle, richement habillé. Après la première communion, j'ai passé ma profession de foi. Pour me préparer à cette profession de foi, j'ai décidé, de mon plein gré, de devenir enfant de cœur et d'accompagner le père Olivier dans sa mission, c'est-à-dire d'aller tous les samedis soirs et dimanches matin l'accompagner pour faire la messe devant des fidèles. J'avais une sorte de chasuble blanche, avec autour du cou une grande croix en bois, quelque chose d'assez simple. À cette époque, mon grand-père Marcel se moquait de moi et m'appelait Monseigneur. Donc, il m'a répété ça pendant plusieurs années. Je trouvais ça absurde et ridicule que je passe autant de temps dans des églises mal chauffées. Voilà. Sur une heure de messe, une heure et quart, j'intervenais à des moments un peu typiques deux, trois fois. Alors parfois, je m'ennuyais terriblement, je m'endormais. Donc le prêtre me faisait un petit signe, il me lançait un clin d'œil, il retournait. À dire vrai, je ne comprenais pas tout de ce qui se disait. Parfois, tout était très opaque. Je dévissais, je décrochais, alors je pensais à autre chose. Je levais les yeux vers la voûte, je regardais la beauté des vitraux, je me perdais un peu dans l'histoire et dans ma tête, je pensais à l'histoire des Hébreux, de Moïse. La véritable question qui m'a animé tout au long de ces années, c'était de savoir, est-ce que je vais croire un jour ? C'est que pendant des années, sans véritablement croire en Dieu, j'ai toujours essayé d'avoir la foi, quitte à se forcer. Ça passait inévitablement déjà par la messe. Et je l'ai vécu comme un effort, parfois surhumain, parce que ça ne me plaisait pas. Puisque je comprenais souvent le quart de ce que racontait le curé. En vivant la messe, vu que je m'ennuyais parfois, je regardais les gens, je regardais les fidèles, donc je regardais toutes ces petites vieilles. Et j'étais souvent traversé de mauvaises pensées, puisqu'il m'arrivait de les juger, même régulièrement. Je voyais toute leur gueule un peu fanée, s'époumonner et chanter pas juste. Parfois, j'avais envie de rire. J'étais obligé de réfréner des rires nerveux. Et j'ai jamais pu chanter les paroles qui louaient le Seigneur dans une église. Tout simplement parce que j'y ai jamais cru. Pour moi, c'était incompatible. C'est comme lorsque je communiais avec Dieu en mangeant l'hostie. J'ai toujours vécu ça comme quelque chose de très contradictoire et désagréable. J'ai pas eu le sentiment de mentir aux fidèles ou aux prêtres, puisque j'avais pas la foi, mais c'était malaisant. Je me suis forcé à exercer des temps de prière. Je me suis forcé à être pénétré du sentiment religieux. Mais j'ai jamais su prier, quand bien même j'aurais voulu. Parfois, je me suis agenouillé dans ma chambre, près de mon lit, les mains jointes, je réfléchissais. Et puis très vite, je trouvais ça tellement grotesque et absurde que je regagnais mon lit, j'éteignais la lumière et puis je pensais à autre chose. Et parfois même, il m'arrivait de penser, c'est vain quoi, t'es fou. J'ai pu parler de tout ça à personne, si ce n'est quelques fois au père Olivier que j'accompagnais. Et il me répondait de manière toujours incompréhensible, presque symbolique, qui, moi, me plaisait pas, puisque j'avais envie d'avoir des réponses très cartésiennes. Les choses se sont fixées 1 à 2 ans après donc, ma profession de foi. J'avais peut-être 14-15 ans, et c'est à partir de cet âge-là que mon athéisme s'est définitivement fixé en moi, dans mon esprit. J'ai revu beaucoup moins le père Olivier, et puis après, j'ai poursuivi mes études au lycée, et puis après je suis allé à Nancy, puis Aix-en-Provence. J'ai revu le père Olivier de moins en moins, je le voyais au gré des enterrements. Donc on n'a jamais véritablement eu l'occasion de reparler de mon expérience à moi. De toute façon, moi, je me serais jamais permis de lui reparler de mon ressenti. Je me le serais pas permis. À un moment donné, j'ai cru, et quelque part, j'ai voulu être pénétré du sentiment religieux, avoir la foi. Il y a des moments que j'ai vécu qui m'ont donné l'impression d'être si près du but. Et quelque part, ça a toujours été un échec, puisque depuis toujours, depuis enfant, je n'ai jamais cru en Dieu. Mais, de manière paradoxale et inexpliquée, j'ai toujours voulu connaître ça, l'assimilant à une lumière, une force. C'est ce que les chrétiens appellent l'espérance. C'est ce que je ne connaîtrai jamais.
C'était L'Église et moi, un reportage de Clément Baudet réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à David, Cyril, Anthony Favier, Frédéric Hay, Jean Villebas et Alexandre Malesson. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Nino Lima, c'est notre stagiaire.